Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Une marque de montre à taille humaine, c'est comme ça que notre invité décrit son entreprise. On vous emmène aujourd'hui chez Louis Hérard au Noirmont. Et effectivement, ça se voit, des locaux sont confortables, mais pas immenses. Et le patron n'est pas dans une tour d'ivoire. Je le croise dans l'entrée, il me demande si je veux de l'eau, il va la chercher lui-même. Il remarque que je suis à moto et me demande si je connais une certaine marque. Oui, il a un partenariat en tête. Notre invité a des projets, des plans, et très vite, on se rend compte qu'il aime la stratégie, les chiffres, l'analyse. Ce qui n'en fait pas quelqu'un d'ennuyeux, non, il aime le marketing, le positionnement et donc se différencier. Lui-même n'est pas totalement conventionnel, avec sa barbe, ses lunettes et ses cheveux longs, et une personnalité que les francs montagnards ne renieraient pas, il assume. Pour faire ce métier, il faut avoir un caractère de cochon. Ses employés n'ont pas l'air de s'en plaindre, on les croise en visitant l'entreprise, il avertit, un sourire aux lèvres, si vous dites du mal de moi, vous êtes viré. Et il rigole, sûrement pas jaune, en tout cas si on en croit leur historique, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans l'entreprise. La marque Louis Hérard fête, elle, ses 85 ans et son directeur est avec nous jusqu'à 19h. Bonsoir Alain Spinetti.
Bonsoir.
On va parler de Louis Hérard, de la marque, de son positionnement, des défis de diriger une entreprise à taille humaine face à des géants et en pleine crise horlogère. Mais avant ça, un petit mot sur votre parcours. À vous, vous avez toujours voulu diriger une entreprise.
Oui, je pense que effectivement, j'ai un caractère, comme vous l'avez dit, de cochon. Donc automatiquement, on n'aime pas tellement se faire contrôler et diriger, malgré que j'ai travaillé quand même 13 années dans le Swatch Group. Et ce n'était pas 13 années qui étaient l'enfer. Au contraire, j'ai beaucoup appris. Donc voilà, mais j'ai déjà dirigé une entreprise dans les années 90 qui s'appelait Sector No Limits. Ça a laissé pas mal de traces au niveau des personnes de 40 ans, 50 ans qui sont emballées pour cette marque de sport, qui répondait beaucoup à des défis personnels de personnes telles que Gérard Daboville, qui surmontait ses propres limites. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi dans le domaine du business.
Mais à la toute base, chez vous, il y a une sensibilité commerciale. Vous avez étudié le commerce avant d'arriver à l'horlogerie.
Oui, alors effectivement, mon parcours est universitaire. Après, j'ai vendu des téléviseurs couleurs. J'ai été aussi dans les cinémas, la maison Bolex, qui n'existe malheureusement plus, avant de commencer il y a une trentaine d'années dans l'industrie horlogère. Et c'est une fois qu'on y entre, on a de la peine à en sortir, parce que c'est un domaine qui est passionnant.
Votre passage à Swatch, vous en retenez quoi ?
Alors, j'en retiens premièrement un début de ma carrière. Donc, la société en 1980 n'était pas dans une situation financière très très bonne. Ça m'a permis de faire mes expériences, ça m'a permis de faire des bêtises. Hein, et je pense qu'à l'époque, il y avait tellement de pertes que les bêtises passaient un peu inaperçues. Donc, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Mais je pense que la confrontation, ou je dirais la collaboration, pas la confrontation, la collaboration avec messieurs Hayek et messieurs Tomke était quelque chose d'unique dans une carrière. C'est des gens qui sont capables de casser vos barrières mentales, c'est des gens qui sont capables de vous faire dépasser vos propres limites, et c'est des gens qui vous sont capables de faire atteindre un but que vous-même vous fixez comme impossible à atteindre. Donc pour ça, je les remercie encore aujourd'hui.
Un parcours vaste, beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui vous a amené à arriver au Noirmont et à diriger Louis Hérard ?
Bon, c'est vrai que l'expérience Sector, j'étais patron d'une société, mais je dominais pas le tout, puisque le développement de produits était fait par les Italiens. Aujourd'hui, j'en avais un petit peu, il y a une douzaine d'années, j'en avais un petit peu marre de retravailler dans les grands groupes. J'avais envie de faire mon propre parcours, et puis voilà, c'est une envie un peu viscérale, quoi. Donc l'opportunité s'est présentée de reprendre Louis Hérard, et puis il n'y a pas grand chose. C'est aussi un atout de recommencer à zéro. Et puis voilà, je me suis lancé. Donc c'est un défi parce que ça arrivait quand même en fin de ma carrière. J'avais 56 ans ou 54 ans. Donc voilà, vous prenez ça et vous lancez, mais c'est passionnant parce que effectivement vous allez depuis le développement du produit, les discussions avec les fournisseurs, la recherche des marchés, le marketing, le positionnement, la gestion des collaborateurs, voilà, tous les défis qui sont inhérents à une petite société.
Vous dites quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose, pour plein de gens ce serait un frein, pour vous ça plutôt l'air d'être une vraie stimulation. Aujourd'hui, avec le recul, pas de regrets ?
Non, pas de regrets à ce niveau-là. Je pense que le nom Louis Erard était déjà un peu familier avec l'industrie horlogère. Il y a tout le monde, avec la montre, la marque horlogère, il y a tout le monde qui me dit que Louis Erard est un bon nom. Donc ça, c'était déjà très positif. J'ai rencontré des collaborateurs dont il en reste encore un ou deux qui sont, comme vous l'avez dit, des fidèles à la société. Ça, c'était déjà aussi positif parce qu'on ne partait pas de zéro, mais du point de vue commercial, on partait pratiquement de zéro. En plus, il a fallu refaire un concept, un positionnement, une marque complètement différente de ce qu'elle était. Et si vous voulez, la faiblesse de l'ERR était un peu une force parce qu'elle me permettait de positionner la marque comme je le voulais. C'est-à-dire qu'au départ, on n'était qu'une marque de montre homme, positionnée dans une gamme de prix que personne ne croyait être possible de faire avec des mouvements suisses et des montres suisses, donc entre 600 et 2000 francs. Donc on était déjà des précurseurs à l'époque. Et puis, le début a été toujours un petit peu difficile parce que quand il y a 800 marques qui sont sur le marché et que vous les lancez la 801e que personne ne connaît, que personne n'attend et dont personne n'a besoin, c'est un gros défi. Et puis je crois que ce défi, puisqu'on a vendu plus de 200 000 montres depuis le début, je pense que c'est un défi qui se laisse voir. Mais pour ça, on est satisfait.
On va revenir sur le positionnement de Louis Erard et les défis que vous affrontez aujourd'hui. Avant ça, je vous propose de visiter. Jean-Michel Probst s'est rendu au Noirmont pour visiter l'entreprise en compagnie d'Arnaud Queneau afin de découvrir dans quel état d'esprit horloger on travaille chez Louis Erard.
Sortie de boîte. Alors, on fabrique les montres Louis Erard. Et on fait en plus autour de la fabrication de montres tout ce qui est marketing, développement produit, le service après-vente et bien sûr tout ce qui englobe la fabrication de la montre.
Quand vous parlez de fabrication, c'est de A à Z ou on est plutôt dans l'assemblage ici ?
Non, alors on fait ici l'assemblage, donc c'est clair qu'on ne produit pas nos propres mouvements ici à l'interne. On achète des mouvements à l'extérieur et on fait quelques petits développements sur nos mouvements qui sont spécifiques à Louis Erard, mais toujours à l'externe avec des partenariats chez des fabricants de mouvements.
T'es visuel et puis t'es texte qui explique bien la marque de Louis Erard. Donc, comment on peut prendre ça en photo pour que tout le monde...
J'ose vous embêter une petite minute. Vous occupez du marketing, quel est votre nom ?
Ouais, moi je suis Suzanne Farner et puis chez Louis Erard depuis 10 ans, je m'en occupe du marketing. Voilà. Mmh.
Et aujourd'hui, on parle justement des présentoirs comme ceux que l'on peut voir notamment dans des vitrines de magasins. Et là, c'est justement un présentoir de la marque Louis Erard.
Voilà, donc si vous passez dans une bijouterie qui a la marque Louis Erard, vous voyez ce display dans leur vitrine. Et puis, c'est toujours important que les gens comprennent comment exposer un display, comment la marque Louis Erard a prévu de présenter la marque Louis Erard dans leur vitrine. Donc, il faut que le mot d'emploi soit facile, c'est compréhensible. Et puis, c'est justement Samuel qui va mettre en scène... Ce qu'on pense, nous, pour que tout le monde dans le monde entier comprend comment Louis Erard a pensé d'exposer les montres.
Comment est-ce que vous allez travailler justement sur ce public cible ?
Alors je dirais, chez nous, chez Louis Erard, on est très vaste, on a un public cible qui est très vaste. On touche beaucoup les jeunes. Et puis après, c'est clair, un peu de tout âge. Mais en ayant des prix qui sont vraiment très compétitifs, on arrive facilement aussi à atteindre des jeunes clients. Et avec le design spécifique de nos montres, on a aussi certaines montres qui plaisent beaucoup aux jeunes, malgré que la grande partie de notre collection est plutôt classique. Donc on pourrait croire peut-être destinée à des personnes un peu plus âgées, mais on remarque aujourd'hui que les jeunes aiment beaucoup nos produits.
Arnaud Queneau, on a fini la visite ici. Pour vous, on pense aux montres qu'on va faire demain, dans une année, dans 10 ans. C'est ça qui est important aussi, parce que le temps passe, mais on pense toujours à l'avenir.
Alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps pour penser à ce qu'on va faire dans 10 ans, mais effectivement, principalement sur ce qu'on va faire et présenter à Bâle et sur le deuxième semestre 2017, là on a déjà des bonnes idées, voire deux, trois pistes pour 2018, mais malheureusement pas jusqu'à dans 10 ans.
Sortie de boîte.
De retour avec le directeur de Louis Erard, Alain Spinelli, qui est notre invité aujourd'hui jusqu'à 19h. On a parlé d'entreprise à taille humaine, on est au Noirmont. Une petite entreprise, ça a quels avantages et quels inconvénients aujourd'hui quand on travaille dans l'horlogerie ?
Bon, le désavantage, c'est qu'on est face à une concurrence qui est effectivement extrêmement importante. Les grands groupes, vous pouvez faire des pertes avec une marque, c'est le grand groupe qui compense, hein, donc il n'y a pas de souci de trésorerie, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Je pense qu'au niveau de, si on était dans un grand groupe, au niveau de distribution, on aurait plus de points de vente dans le monde qu'on a actuellement. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi pas mal de possibilités pour une société comme Louis Erard, c'est qu'on a une flexibilité, on a une approche à taille humaine aussi avec les clients, donc ça, ils s'en rendent compte. On est ouvert, on est prêt à faire une collaboration. Nos partenaires sont toujours des partenaires privilégiés, il n'y a pas de petits et de grands clients. Et je pense qu'aujourd'hui, face au défi de la distribution, la concurrence, la pression des grands groupes, les détaillants vont de plus en plus mettre l'accent sur des marques indépendantes.
Quelque chose qu'on entend souvent, c'est une PME peut réagir beaucoup plus vite qu'un gros groupe. Est-ce que vous avez aussi cette impression ? Est-ce que vous avez un exemple concret ?
Oui, alors au niveau flexibilité, on peut réagir par exemple sur une demande de produit ou faire un B2B avec une société dans un pays du Moyen-Orient qui veut un certain modèle avec une personnalisation sur le cadran. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par la direction pour être d'accord. Au niveau où je négocie avec des clients, des accords publicitaires, des choses comme ça, la décision se prend à la fin de la séance. Donc de ce côté-là, ça va beaucoup plus vite.
Vous nous avez dit en préparant cette émission, je croyais que j'étais humble quand je travaillais dans une grande entreprise. La PME m'a appris qu'à l'époque j'étais arrogant et m'a appris la vraie humilité. Pouvez-vous nous expliquer un peu ça ?
Quand vous travaillez dans un grand groupe, automatiquement vous avez des instructions qui viennent de la direction et vous allez dans le marché et vous dites il n'y a qu'à, vous n'avez qu'à faire, vous n'avez qu'à implanter ce que la direction veut. Souvent, je pense que les objectifs qui étaient donnés à mon époque n'étaient pas forcément réalistes. Et on impose, et les gens se taisent par crainte, par peur, essayent d'atteindre des objectifs, mais n'y arrivent pas toujours. Et je pense que le discours, quand vous avez une machine derrière vous, ben je vous rappelle que j'ai travaillé 13 ans dans le Swatch Group, c'est une machine extrêmement professionnelle, puissante, mais qui en impose. Et quand vous allez seul au combat avec le client, ben vous devez convaincre vous-même. C'est pas une dictature, c'est pas tu as qu'à faire comme ça. C'est vraiment une négociation. Et là, on redevient humain.
Si on parle du produit et de la stratégie, vous parliez tout à l'heure du positionnement, ce positionnement un peu premier prix. Aujourd'hui, il est encore faisable face à des gros mastodontes qui peuvent faire des économies d'échelle. C'est possible pour une entreprise comme Louis Erard d'être premier prix sur une gamme ?
Alors, il était possible. Je pense qu'aujourd'hui, on est toujours une marque à des prix très accessibles. Mais quand on est rentré dans l'industrie avec la marque Louis Erard dans le monde de la mécanique, on était effectivement les meilleurs marchés. On a commencé à 600 francs et je viens de faire des conférences de presse à Lausanne et à Zurich pour informer un petit peu la distribution et la presse que aujourd'hui pour une société qui dépend des prix et des livraisons de fournisseurs qui dominent la production du mouvement, c'est plus possible d'adopter des prix comme ça. Donc on le sait, on est conscient, j'ai introduit du quartz pour des dames, c'est pas forcément la même produit. Donc aujourd'hui, on doit être une société qui réagit différemment. On doit probablement avoir des produits un peu plus différents. Et je pense que l'argument prix, tout en étant, comme je le répète, très accessible, deviendra moins important puisque le différentiel entre des marques mieux connues s'est amenuisé. Si quelqu'un avant devait payer du simple au double pour acheter Louis Erard, c'est un argument de prix. Aujourd'hui, ça sera plus la marque qui va devenir un argument de prix. Donc il faut qu'on change notre approche et c'est ce qu'on est en train de faire et qui finalement est bien accepté par les clients quand on arrive à leur expliquer.
Dès le moment où un argument fort comme un argument de prix disparaît, vous dites qu'il faut changer, il faut se repositionner. Quelle est votre vision aujourd'hui sur l'avenir de Louis Erhard ?
Je pense que Louis Erhard, on va vendre beaucoup plus de montres entre... Donc on va peu vendre de montres en dessous de 1000 francs, on va vendre des montres entre 1000 et 3000. Donc on ne change pas notre positionnement originel. Hein. On était entre 600 et 2000. Après la rupture ou l'annonce de la rupture des livraisons de ETA, on a été forcé de passer de 2000 à 3000. Donc on est depuis maintenant 2008 entre 500 et 3000. On ne veut pas changer ce positionnement, mais on va mettre plus l'accent sur des pièces un peu plus uniques, un peu plus spéciales, un peu plus identitaires. Et pour faire des pièces comme ça, pour faire des montres comme ça, vous êtes obligé d'être dans une catégorie de prix de 1500 à 3000. Donc c'est un changement un peu psychologique parce que les clients ne sont pas... jeter dans un bain complètement nouveau, mais c'est leur apprendre à mieux positionner la marque, à mieux la présenter et surtout acheter, et offrir, conseiller des produits qui sont légèrement différents en donnant une marque, à la marque une émotion plus produit sophistiqué.
Il y a aussi tout l'aspect relation avec le client. Vous avez commencé un grand travail de réflexion là autour. Quel est le but de cette réflexion ? Vous visez quoi dans l'idéal, dans la relation que la marque a avec le client ?
Alors, il y a deux sortes de clients. Quand vous dites client, il y a le client, c'est le détaillant, voire distributeur. Donc là, ça implique une démarche à long terme. Hein. Ça implique qu'on explique notre stratégie, qu'eux la comprennent, qu'ils l'acceptent et qu'ils commencent à mettre en place les éléments qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs à long terme. Donc c'est au niveau d'une sélection de distribution, c'est au niveau d'un engagement publicitaire, c'est au niveau de renforcer et de mieux faire du training chez les détaillants pour leur dire comment est-ce qu'il faut profiler la marque et présenter la marque Louis Erhard. En ce qui concerne le consommateur final, ça c'est un autre discours, automatiquement on sera obligé de plus intensifier nos investissements publicitaires, d'aller à travers les réseaux sociaux, d'avoir un discours plus novateur avec un produit qui se différencie de la concurrence du me-too product comme on dit en anglais.
Aujourd'hui, vous parlez d'investissement publicitaire. On sait que le secteur est en crise. En préparant l'émission, vous me disiez qu'à l'époque, il y avait une crise tous les 7 ans et que là, on a l'impression qu'il y a cette crise en une année. On arrive à rester optimiste dans le contexte actuel ?
Alors, en ce qui concerne Louis Erhard, aujourd'hui, je suis plus optimiste qu'il y a une année en arrière, tout simplement parce que c'est des conditions qui ne sont pas forcément inhérentes au marché, mais c'est parce qu'on a eu un conflit qui s'est malheureusement mal terminé avec notre ex-distributeur en Italie, et on est en train de relancer maintenant avec un nouveau distributeur, et il vient nous ouvrir déjà en 2 mois plus de 45 points de vente. Donc, au moment où vous reprenez pied sur un marché qui était notre marché clé, c'était notre deuxième marché après la Suisse, ça me donne beaucoup plus de perspectives et surtout que c'est une approche qui se fait avec une très bonne entente avec le distributeur qui comprend un petit peu qui comprend un peu les objectifs à long terme, même si on doit peut-être avoir une application un peu plus soft dans les premiers mois de collaboration. Donc là, je me dis que pour Louis Erhard, justement en fonction de la pression que les grands groupes donnent, la pression auquel les détaillants, la distribution est soumise, la carte d'une marque indépendante a de plus en plus d'arguments à faire passer. Donc c'est la raison pour laquelle je suis, vous me voyez beaucoup plus décontracté que si vous en avez fait l'interview il y a une année en arrière.
On est dans l'horlogerie, on y reste avec Marie-Lise Saillard dans sa chronique Pile à l'heure. Aujourd'hui on parle pédagogie.
Pile à l'heure. Comme d'autres domaines, l'horlogerie a son propre jargon. Aujourd'hui, je propose qu'on s'arrête sur une partie bien spécifique d'un mouvement horloger, l'échappement. Ah non, non, pas celui-là, pas l'échappement avec un pot sous une voiture.
Et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement.
Alors l'échappement dans une montre, c'est quoi ? Écoutez les explications de l'auteur d'un livre de référence qui vient de sortir. Livre intitulé « Théorie des échappements » paru aux éditions Simonin. L'auteur, c'est Sylvian Aubry.
C'est déjà pas une seule pièce, souvent il y a plusieurs pièces. Et c'est la partie qui va faire la liaison entre la force transmise dans le rouage de la montre et l'oscillateur. L'oscillateur, c'est la partie qui va... donner la fréquence donc la régularité. Et l'échappement, lui, il doit transmettre l'énergie à l'oscillateur et il doit compter cette énergie, si on veut, quelque part.
Donc si on devait schématiser, on reçoit de la force qu'on doit maîtriser pour que la fréquence après soit la bonne ?
Oui, c'est ça, exactement. D'où la difficulté, parce que cette force, si on laisse le rouage se dérouler tout seul, sans maîtrise, ben, on a les aiguilles qui avancent, mais de manière rapide au début, puis après plus lente, et puis on a toute l'énergie qui part d'un coup. Là, il faut retenir cette force à un moment donné, il faut la libérer à un autre moment, et il faut surtout la transmettre à l'oscillateur pour entretenir sa fréquence. Et c'est ça la difficulté, et ça fait des centaines d'années que les horlogers étudient ça.
Le livre de Sylvien Aubry est une commande de la Fédération des écoles techniques. Il remplace l'ouvrage qui servait à l'enseignement jusqu'alors et qui datait des années 70. Depuis, c'est vrai que pas mal de choses ont changé, il a donc fallu introduire de nouveaux chapitres, de nouvelles notions. Exemple avec Sylvien Aubry.
Par exemple, l'utilisation du silicium et de la galvanoplastie pour fabriquer des pièces en liga. Ça permet de faire des petites séries, de faire des essais, de fabriquer des échappements compliqués sans un outillage basique trop cher, trop important. Et donc ça a permis vraiment aux entreprises de fabriquer des pièces d'exception avec des échappements exceptionnels à des coûts raisonnables, on va dire. Donc c'était très intéressant de le mettre dans l'ouvrage. Ça permettra aux jeunes d'avoir une vision plus large sur ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils sont en entreprise.
Merci Sylvian. Et je crois que Pierre Perret voulait aussi nous dire quelque chose à propos de l'échappement. Je sens que je vais avoir honte, alors je m'échappe moi aussi.
Il a le tuyau d'échappement plutôt près du gazon.
Pile à l'heure.
Merci Marie-Lise. Alain Spinellier, on a entendu, on parle de formation dans l'horlogerie. Aujourd'hui, vous pensez que la formation, elle est bonne au sein des horlogers en Suisse ?
Alors, je ne suis pas forcément le bon interlocuteur pour parler de ça, parce que nous sommes plutôt des assembleurs-établisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin d'horlogers qui font de l'assemblage, puisqu'on achète des mouvements qui sont complets, bien qu'un des modules que nous avons en régulateur réserve de marche est un module exclusif pour la marque Louis Rare. Mais il y a de gros efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, je crois que la solution pour les grands groupes, c'est effectivement d'accélérer, surtout les marques de luxe, c'est d'accélérer un peu cette formation. Pour une marque de 600 à 3000 francs, telle que le positionnement naturel de Louis Rare, que nous ne voulons pas changer à l'avenir, aujourd'hui, cette partie a moins d'importance. Il faut des bons horlogers pour réparer un produit simple. C'est des chronos 77-50, c'est des mouvements 28-24. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour pouvoir faire des modifications. C'est le positionnement de Louis Rare. En dessus de 3000, vous êtes obligé probablement d'avoir quelques modifications, complications spéciales. Entre 600 et 3000, vous êtes obligé de vous baser sur des mouvements. Et je pense qu'une très très grande partie des consommateurs, je ne veux pas le mettre en pourcentage, mais une énorme partie des consommateurs ne veut pas forcément le tourbillon, le double tourbillon, le gyro tourbillon, les choses comme ça. Donc là, on reste avec une formation qui, pour moi, est classique et suffisante.
On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Alain Spinetti, d'avoir été notre invité ce soir.
Je vous remercie. C'était intéressant de répondre. Et puis, merci à tout le monde qui m'a écouté.
Sortie de boîte.